Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
On a la troisième grande famille de roches, celle qui est la plus proche de nous, donc les roches sédimentaires. Il en existe, pour simplifier, on va dire trois groupes. Donc, on va avoir ici, avec la mer, donc le peuple de la mer, faut bien qu'il meure. Hein, et pendant tous ces millions, des milliards d'années, millions d'années, on va parler de millions d'années, on va avoir des bestioles toutes différentes en fonction des époques. C'est jamais les mêmes. Qui vont mourir et qui vont sédimenter au fond de la mer. Donc ici, on va avoir le grand groupe dans la famille des roches sédimentaires que l'on appelle le groupe d'origine organique, les organismes vivants. Ici, on a une crête de montagne. Eh bien ici, on va avoir un deuxième groupe de roches sédimentaires qu'on va appeler des roches d'origine détritique. Dans détritique, on entend détritus. Donc, c'est toutes les roches qui vont se déliter, qui vont partir à l'érosion. Sachant que les continents sont constitués des trois grandes familles de roches. Donc, il y a des roches plus ou moins dures, plus ou moins denses, qui mettront plus de temps ou moins de temps pour s'éroder. Tout ça, c'est très complexe. Mais là, on va avoir donc le groupe d'origine détritique. Et puis, on aura un autre groupe dans les roches sédimentaires. La Tétis n'étant pas profonde, il y a des endroits, et comme il fait très chaud, il y a des endroits où ça s'évapore et où on va avoir donc ce fameux sel de la mer Tétis qui va rester, qui nous donnera les gypses saccharoïdes. Le gypse saccharoïde fait partie du troisième groupe de roches sédimentaires qui sont les roches d'origine chimique, on va dire. Donc là, on a du gypse saccharoïde, c'est le troisième groupe des roches sédimentaires, d'origine chimique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le géoparc de la ferme de Tétis? Eh bien, on a dit qu'il y avait trois groupes essentiels dans les roches sédimentaires. On a parlé de roches d'origine organique, le fond de la mer, de roches d'origine détritique, l'érosion des montagnes, et des roches d'origine biochimique qui sont là. Ici, là, tout ce qui est là, ce sont des roches d'origine chimique. On va trouver ici une stalagmite ou stalactite dans les roches d'origine chimique. Eh bien oui, parce que ça, c'est de l'eau qui goutte dans les grottes et qui calcifie. Donc, c'est d'origine chimique. Là, on a ce fameux gypse saccharoïde, le fameux sel de la mer Tétis, qui est une évaporite. Dans les roches d'origine chimique, on a bien entendu le tuf. Le tuf, partout dans le monde, quand on croise une source, on va toujours trouver du tuf. Parce que l'eau de source, quand elle sort de la terre, elle se décharge de ses oligo-éléments, de ses minéraux. Et là, on va avoir l'apparition du tuf. Donc c'est d'origine biochimique, on va dire. Là, c'est le fond de la mer. Donc ici, on va trouver les calcaires. On va trouver des roches. Alors, il y a pas mal d'échantillons avec des fossiles, des tout petits fossiles à l'intérieur dans les calcaires. Voilà. On va aussi trouver des roches coquillères. Alors ça, ce n'est pas local. Nous, on a du tuf qui pourrait éventuellement ressembler un petit peu à ça. Mais là, c'est de la roche coquillère. C'est un échantillon qui n'est pas des Hautes-Alpes. Mais c'est pour donner un échantillonnage un peu plus large de ce qui peut exister dans les calcaires. À côté, on va avoir ici un calcaire avec du silex. Alors le silex, dans silex, on entend silice. Eh bien oui, c'est pourtant dans les roches sédimentaires, c'est un peu bizarre. Mais oui, les silex sont dans les roches sédimentaires. On va encore repartir avec notre imagination. On va s'imaginer sur les plages de la mer Tétis. Cette mer Tétis qui n'est pas profonde, qui est très chaude. Tellement chaude que dans les fonds de la mer Tétis, eh bien, les éponges marines se développent à une vitesse extraordinaire. Il y a aussi des algues qui contiennent de la silice dans la mer Tétis. Et certains oursins aussi qui contiennent de la silice. Dans les éponges marine, il y a un petit peu de silice. Dans certains oursins aussi, et dans certaines algues, il y a aussi de la silice. Cette mer étant très chaude, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le gypse saccharoïde, elle va s'évaporer. Donc toutes ces éponges, elles vont mourir. Et quand elles meurent, il reste la silice. Et cette silice va continuer son voyage dans le temps géologique jusqu'à nous former du silex. Donc le silex, il est obligatoirement dans une gange de calcaire, puisque le fond de la mer Tétis est calcaire. Nous, dans les Hautes-Alpes, on a un silex extrêmement particulier. C'est le silex noir des Hautes-Alpes qui, à ma connaissance, je ne sais pas s'il en existe ailleurs, je ne pense pas, assez spécifique. Dans le monde entier, on trouve les rognons de silex, comme on a là. Mais dans les Hautes-Alpes, on a ce calcaire marbré de silex. On peut presque imaginer les racines des éponges marines quand on le regarde. Donc voilà, donc dans les roches d'origine organique de la famille sédimentaire, on trouve des roches d'origine calcaire, d'accord, c'est du calcaire, mais on trouve aussi des roches avec de très fortes présences siliceuses, comme le silex, ou bien cette roche-là à côté, qui est une radiolarite. La radiolarite, c'est une roche constituée de microsquelettes de petites bestioles qu'on appelle des radiolaires. Je n'ai pas raconté toute l'histoire de la mer Tétis, mais un jour, la mer Tétis est devenue l'océan alpin Tétis. À la fin de l'ère secondaire, quand l'Afrique a commencé à nous rentrer dedans, le volcan sous-marin, il a commencé à faire bien la tête. Mais là, les compressions, les températures et tout ça, ça a fait venir mais incroyablement beaucoup de roches métamorphiques. Et quand les montagnes se sont créées, on a retrouvé des radiolarites aussi. Ces radiolarites sont donc constituées de radiolaires qui vivaient au fond de l'océan alpin Tétis, à une certaine profondeur. Voilà. Et on les retrouve pas loin de Château-Quérin. On va les trouver juste à sortie de Guillesse, on en trouve déjà des radiolarites. Donc là, on est quand même dans des roches d'origine organique avec des petites bestioles vivantes qui n'ont pas un squelette comme les autres, puisque c'est un squelette de silice. Incroyable! Ça veut dire que peut-être sur d'autres planètes, il y a peut-être des extraterrestres qui vivent avec des squelettes siliceux. Donc on a vu chimique, organique, et là, on va avoir les roches d'origine détritique. Donc les brèches de Boscodon que l'on trouve ici sont des roches d'origine détritique. Plusieurs possibilités de formation pour les brèches. La plus connue, c'est quand la Pangée s'est cassée en deux, le continent unique, il s'est cassé en deux et les continents se sont écartés. Ça a fait ce qu'on appelle le rift. On peut imaginer entre les deux continents, on peut imaginer que la mer Tétis se glisse, mais que le fond de la mer, c'est comme une marche d'escalier. Il y a plusieurs écailles, plusieurs marches d'escalier jusqu'à arriver au volcan sous-marin d'un côté et de l'autre. Et puis nous avons notre mer Tétis dans laquelle eh bien, il y a des éléments sédimentaires détritiques qui viennent des continents, des deux continents. Il y a aussi les sédiments organiques qui s'accumulent au fond de la mer Tétis. Tout ça, ça fait que sur les marches d'escalier qu'on appelle le rift au fond de la mer Tétis, il y a plein de sédiments qui s'accumulent. Quelquefois, eh bien, sur les contre-marches de ces escaliers, de ce rift, il peut y avoir des avalanches sous-marines. Et quand il y a plusieurs strates de sédiments sur les marches d'escalier du rift, toutes ces roches diverses et variées qui constituent les sédiments sur la marche du rift, elles partent en avalanche, elles se retrouvent sur la marche du dessous. Et là, eh ben après, l'érosion fait son chemin et on va pouvoir, dans le temps géologique, longtemps après, on va retrouver des brèches. Les brèches, elles ont toujours plusieurs couleurs parce qu'elles sont constituées de roches diverses et variées. Ces roches diverses et variées vont être ressoudées par des ciments, alors des ciments calcaires, des ciments siliceux, ça dépend des endroits. L'érosion, ça commence... Allez, on imagine. L'érosion, qu'est-ce que c'est ? On imagine, là, les montagnes, là, tout d'un coup, il y a une falaise énorme, là, qui se casse la figure. Badaboum, badaboum, il y a des énormes blocs qui se cassent la figure, ça tombe, et puis il y a des énormes blocs, et il y a des gros cailloux, et puis il y a des pierres, et puis il y a du gravier, et puis il y a de la poussière, et puis il y a toutes sortes d'érosions possibles dans l'effondrement d'une falaise. C'est pareil pour les brèches. Il va y avoir aussi des poussières et tout ça. Et dans le temps géologique, ces poussières vont recoller toutes ces pierres. C'est des brèches. On les reconnaît parce qu'elles ont plusieurs couleurs et que les duretés et les densités sont jamais les mêmes. Pour travailler une brèche, c'est pour ça que c'est très, très, très rarement travaillé en sculpture. Il y a des duretés et des densités différentes chaque fois qu'il y a une couleur qui change dans la pierre. Et puis les ciments, ils peuvent être plus ou moins solides. Il y a des ciments qui ne tiennent pas bien la pierre. Si on tape avec des outils à main dans une brèche, si le ciment il n'est pas costaud, ça explose, quoi. Là, au début des roches détritiques, là j'ai parlé des brèches, d'accord ? Mais on a aussi les poudingues. Mais ça, c'est le poudingue du roc d'Embrun ou de Mont Dauphin. Quand au Quaternaire, il y a eu le glacier, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la glace du glacier au Quaternaire, elle était au moins à 2 km au-dessus de la tête des Briançonnais, quoi, la glace. Donc on n'est pas loin de la source de la Durance aussi. Et en fait, au Quaternaire, quand il y avait le glacier, il était assez terrifiant. Il allait jusqu'à Manosque, quoi. C'est un truc assez terrifiant. Et le glacier, il avance comme un énorme monstre. Il avance et il gratte. Il gratte les montagnes autour de lui, là. Il gratte des pierres de toutes sortes. Il y a de tout, c'est très diversifié. Et tout ça, ça s'arrache et ça fait des moraines, les moraines glaciaires. Quand le glacier disparaît, la Durance, tout enchantée de pouvoir respirer, va continuer de se faufiler à travers ces moraines. Donc c'est comme ça qu'on retrouve le roc d'Embrun, le Mont Dauphin, moi j'appelle ça le canyon à Châteauroux, bon voilà, c'est tout des poudingues. Donc là on est vraiment dans une érosion grossière quand même, mais les poudingues, ils ont roulé dans l'eau sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais la formation c'est la même que les brèches, c'est la même chose. D'accord, poudingues et brèches, c'est la même chose. Sauf que les brèches ont été formées sur place et que les poudingues, ils ont roulé dans une rivière. On va imaginer que dans ces brèches, elles sont constituées de roches différentes avec des duretés, des densités différentes. On n'a qu'à imaginer, pour faire une démonstration qui n'a rien de scientifique, mais qui a le mérite d'être explicite, donc je le précise, on va imaginer que dans une de ces brèches de Boscodon, nous avons un petit bout de feldspath, là, une pierre bien dure, là, hein, voilà, une pierre plutonique, là, magmatique, là, bien dure, là, qui est venue se mettre dans une brèche. Elle va mettre beaucoup plus longtemps que toutes les autres copines à se détériorer pour subir l'érosion. Mais elle arrivera à se détériorer. Un feldspath, il va mettre beaucoup plus longtemps parce qu'il est très dur et tout, mais il va finir par se détériorer. L'érosion va le manger et va le transformer en petits grains de sable, par exemple. Donc on va passer des brèches et des poudingues, on va passer au grès, avec les petits grains de sable. Les grès, c'est ce qu'on appelle les pierres de sable. On pourra toujours reconnaître un grès parce qu'il est constitué de grains de sable et qu'on le sent au bout des doigts, le sable. Même quand c'est un micro-grès, là il y en a des micro-grès, on sent que c'est râpeux. Voilà, ça c'est les grès du Champsaur qui sont incroyables aussi, qui sont arrivés à séparer leurs couleurs entre le vert et le gris. Incroyable. Alors, elle, c'est la pierre la plus vieille de tout le géoparc de la ferme de Tétis, celle-là. C'est le grès houillé de Briançon. Moins 350 millions d'années. ère primaire. Très, 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 très ancien. Voilà. Donc là, ben, c'est les pierres à sable. L'érosion, elle a transformé le petit grain de sable en grès. Ils sont très contents. Ils ont trouvé une place pour se former. C'est génial. Mais s'ils n'avaient pas trouvé une place pour se former, l'érosion, elle continue. Alors, notre petit grain de sable, il devient tout petit, 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 petit. Il peut devenir un micro-grès, comme on a vu. Mais s'il ne trouve pas une place pour se former, ben, il va continuer à s'user. Et il va nous donner des marnes, des argiles, ici. Alors, les marnes, c'est un mélange de poussière de calcaire et de poussière de silice. L'argile, c'est essentiellement de la silice. Ici, on va avoir des marnes encore. Alors ça vient de Boscodon. Et on va, dans ces marnes-là de Boscodon, trouver beaucoup de présence de minerais. Ça peut être du sulfure de fer, donc de la pyrite, ou ça peut être de la galène, comme ici. Hein. Dans le Boscodon, on avait un gars, au début du siècle dernier, il avait commencé à faire une mine de galène, de plomb donc, mais les gens du coin, ils n'étaient pas très contents, donc il n'a pas pu continuer sa mine, le gars. Dans les marnes, dans les argiles, on trouve beaucoup de minerais. Au Quaternaire, quand les glaciers ont fondu, il y avait des terres autochtones, c'est-à-dire que tout le tour du lac de Serre-Ponçon, c'est des terres noires. C'est le terrain autochtone avant la formation des montagnes, c'était comme ça. Et quand les montagnes, les nappes de charriage sont arrivées, que les montagnes se sont formées, il y a des endroits de terre noire autochtones qui ont été embarqués dans la tectonique et qui se sont incluses dans la formation des montagnes. Alors, quand le glacier a fondu, il a trimballé des paillettes d'or. Et ces paillettes d'or, elles ont trouvé un nid extraordinaire dans ces terres noires, parce que les terres noires étant des marnes, d'anciens marécages en fait, c'était assez plastique, et donc comme l'or est lourd, il est tombé dans ces marécages-là, dans ces terres noires.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.